jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité ce midi. Il est écrivain. Un écrivain qui, on le verra en abordant son dernier roman, a d'abord eu une formation scientifique en Algérie, où il est né et sur laquelle il a commencé à écrire. Avant d'être romancier, il a donc été en quelque sorte ingénieur, puis ingénieux, en rassemblant dans l'écriture la science et la fiction. Son dernier roman, Vivre, sous-titré Le Compte à rebours, nous rapproche de la fin du monde, pas celle annoncée depuis toujours, celle qui arrivera un jour, non celle qui est prévue dans 780 jours très précisément.
Bonjour Boualem Sansal.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Merci à vous.
Boualem Sansal, il y a 9 ans, si je ne dis pas de bêtises et si je compte bien, vous signez déjà un livre sur la fin du monde, 2084, en référence à Orwell et à son 1984. Qu'est-ce qui vous attire vers la fin du monde ?
C'est pas une obsession, c'est une réalité. Je veux dire que la fin du monde est inscrite dans l'histoire. S'il y a un début d'une histoire, il y a nécessairement un développement de l'histoire et au bout, une fin de l'histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, on est très largement engagé dans cette troisième étape. Tout va mal dans tous les domaines. Et c'est pas seulement à cause des difficultés de la vie. C'est parce qu'on ne sait pas répondre aux questions que nous impose la vie aujourd'hui. On est complètement bègue devant la réalité, silencieux, effrayé. Et donc le mieux, c'est peut-être, si on veut éviter la fin du monde, il faut mettre les pieds dans le plat et regarder les problèmes tels qu'ils se présentent. Et puis prendre les risques. Voilà, on sortira par le haut ou par le bas. Donc ça dépend de nous.
Vous l'avez dit vous-même, s'il y a un début, il y a une fin. Ouais. Comment on peut éviter la fin du monde alors ? Comment faire pour éviter la fin du monde ? D'autant plus que là, on n'est pas sur une fin du monde, comme je le disais, dans très longtemps. On est dans une fin du monde qui approche. Le compte à rebours est lancé.
Oui, on le constate tous les jours et partout. Le temps accélère. Le temps a toujours été à la dimension de l'humain. On allait lentement, on avait le temps, des siècles pour réfléchir, pour poser des questions, comme les religions notamment, poser des questions du millénaire prochain. Donc, ils se donnaient le temps de répondre. Mais aujourd'hui, non. On est interpellé minute par minute. Il faut répondre aux questions tout de suite parce qu'il y va question de vie ou de mort. C'est très rapide. Regardez la question de ce qui se passe en Ukraine. Il faut rapidement répondre à la question. Qu'est-ce que c'est comme guerre ? Comment l'arrêter ? Est-ce qu'il faut la poursuivre ? Enfin, mille et une questions qui nécessitent des réponses immédiates. Et je vous fais remarquer que la guerre a déjà 2 années, qu'elle a fait des milliers de morts. Et qu'apparemment, on ne sait pas répondre à cette question, aux questions que pose le conflit entre l'Orient et l'Occident, entre la Russie et l'Europe, entre les Ukrainiens et les Russes. Là, on regarde, on se pose à peine des questions, disons, pratiques. Est-ce qu'on va leur envoyer des armes ou des vivres, des couvertures ou des canons ? On en est là, quoi. C'est triste.
Vous abordez d'ailleurs, Boualem Sansal, cette question de la guerre dans votre livre. Je vais en venir au fond de ce roman, mais d'abord, puisque vous en parlez, la guerre, vous dites, elle est quasiment inévitable chez l'homme. Et d'ailleurs, c'est l'une des questions qui est posée à ces personnages qui sont donc dans une situation particulière. Je vais l'énoncer pour nos auditeurs et nos auditrices. Votre roman Vivre, le compte à rebours, c'est donc un personnage qu'on rencontre dès les premières lignes qui s'appelle Paolo, qui se réveille un jour d'une sorte de mauvais cauchemar, en quelque sorte. Il a une vision durant la nuit qui l'a convaincu que la fin du monde approche et qui lui a donné cette clé, ce nombre de jours, ce décompte qui est donc lancé dès le début du roman, 780 jours. Et puis, on aurait pu en rester là, sauf qu'il va se rendre compte, ce Paolo, et il va découvrir au hasard d'une station de métro ratée, une pancarte à une fenêtre. La fenêtre, c'est celle de Jason, un autre personnage, un personnage américain qui vit dans le 11e arrondissement de Paris et qui reprend lui aussi ce compte à rebours. Signe de ralliement entre les deux, et ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls, ils vont se baptiser eux-mêmes les appeler, c'est comme ça qu'ils vont se reconnaître. Et à partir de ce moment-là, puisqu'on parle de l'humanité, de comment est-ce qu'on imagine l'avenir, il y a une forme de scission au sein de la population. Il y a ceux qui savent les appeler, il y a ceux qui ignorent, et il y a ceux qui ne veulent pas savoir.
Alors, l'histoire humaine est ainsi faite depuis toujours. des hommes reçoivent une vision, un message. C'était par exemple Abraham, qui était tranquillement chez lui, à conduire son troupeau, son petit peuple, et un jour il reçoit un message, la fin du monde, qui lui dit « Abraham, quitte ton pays, va où je te dirai ». Voilà, un message mystérieux, incompréhensible. Il tourne ça dans sa tête, il finit par se convaincre que ce message lui est adressé à lui, appelé. Il est appelé à quelque chose. À quoi, il ne le sait pas. Peut-être à fonder une nouvelle religion, c'est peut-être découvrir la terre promise. Et puis, 5 siècles plus tard, rebelote. Un homme a une nouvelle vision, Moïse, qui un jour entend une voix qui lui dit, de manière pas très claire, « Moïse, va sur le mont Sinaï ». Et il va sur le mont Sinaï, et là, il reçoit les tables de la loi. Plus tard, Jésus, c'est pareil. Un jour, il surgit, il entend une voix qui lui dit qu'il est le Fils de Dieu. Et il va vers les hommes et il leur dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, suivez-moi ». Et les gens le suivent. 5 siècles plus tard, c'est Mahomet. Donc on est, ce que je raconte dans ce roman, c'est la continuation de cela. Nous avons toujours vécu sur des messages qui viennent on ne sait d'où, qu'on ne sait pas interpréter, et puis on finit par se convaincre qu'on est appelé à quelque chose, à une mission. C'est rassembler d'abord les appelés, s'il y en a d'autres, et puis élire ceux qui vont jouir de la nouvelle vie. Vivre, c'est cela.
J'ai entendu dire qu'il y avait un astéroïde ou une comète ou je ne sais quoi qui vous préoccupait. Je vous écoute parler. Vous avez 20 minutes.
20 minutes ?
Allez-y.
C'est une comète entre 5 et 10 km de diamètre qui, d'après nos estimations, provient du nuage de Oort. Et en utilisant la méthode de détermination orbitale de Gauss et un paramètre d'incertitude astrométrique moyen de 0,04 seconde d'arc. C'est quoi, Charpia ?
Dites-nous juste de quoi il s'agit.
Pardon ?
Pitié, stop.
Ce que le docteur Mindy essaie de vous dire, voilà, c'est qu'il y a une comète qui fonce droit sur la Terre.
Et ensuite quoi ? Il y aura un raz-de-marée ?
Ce sera bien plus catastrophique. Il y aura des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut.
Quels sont les risques que ça arrive ?
Il y a 100% de risque d'impact.
S'il vous plaît, ne dites pas 100%.
Disons que c'est un événement hypothétiquement significatif.
On vient de vous dire que ça n'avait rien d'hypothétique, justement.
On est sur du 99,78% pour être exact.
Oh, génial ! Ok, donc c'est pas 100%.
Eh bien...
Disons 70%, avançons et n'en parlons plus.
Mais on est loin du compte avec 70%.
L'un extrait du film Don't Look Up, Déni cosmique de Adam McKay, sorti en 2021 sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu, Boulem Sansal. En tout cas, il nous a fait penser à l'idée aussi de votre roman Vivre, le compte à rebours, paru chez Gallimard, sur plusieurs points. D'abord, cette idée de convaincre. Si Paolo, le personnage principal, a cette vision, c'est qu'il et doit se reconnaître avec les appelés, c'est qu'il doit convaincre les autres, ceux qu'il aura choisi, de le suivre pour quitter cette planète qui est en train de mourir.
La première difficulté, c'est d'abord de se convaincre soi-même. Voilà, on reçoit des informations, des nouvelles tous les jours de notre vie. Il faut les interpréter. Il faut d'abord se convaincre que ce sont des informations qui nous sont destinées. C'est pas un brouhaha qu'on entend. Donc, il nous est destiné. Ça veut dire que nous sommes élus, choisis par une entité à laquelle on ne sait pas. Le récit se construit au fur et à mesure. Nous vivons dans une sorte d'utopie permanente qu'il nous faut décrypter à chaque instant. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est pas valable pour Paolo, c'est valable pour Jason qu'il va rencontrer par hasard, mais c'est valable pour nous tous, tout au long de notre vie. Nous recevons des informations, nous sommes interpellés, on le croit. Il faut se convaincre et ensuite convaincre les autres. Et ça, c'est très difficile de convaincre les autres. Ça peut être aussi très dangereux. Les gens ont leurs croyances. Ils finissent par les définir comme sacrés. Et donc, on vient avec quelque chose qui déstabilise, c'est extrêmement dangereux. Il faut donc constamment s'assurer qu'on est soi-même convaincu pour pouvoir convaincre les autres.
Vous êtes appelé, vous, Boulem Sansal ? Parce que vous dites, on est sans cesse appelé, ouais. On a l'impression, ouais. On pense savoir que l'on reçoit des messages.
Ouais,
personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé.
Oui, moi, ça m'arrive tous les jours.
Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. Donc, quels sont ces messages que vous recevez, comment vous les interprétez ?
Voilà, moi, je suis un scientifique, donc j'ai vécu toute une partie de ma vie, on va dire jusqu'à 35-40 ans, dans dans la certitude scientifique. 1 plus 1 égale 2, que ce soit ici à Paris, ou à New York, ou sur la Lune, ou n'importe où. Donc j'ai vécu dans la certitude. Et puis un beau jour, le monde de la certitude qui était le mien, dans lequel je vivais depuis mon enfance, s'est effondré. C'est la guerre civile en Algérie qui a fait... qui a fracassé tous les paradigmes, pas seulement les miens, mais ceux de tout le monde. Voilà. Et donc, voilà. Et là, j'ai, à un moment donné, j'ai senti que j'étais appelé à quelque chose. À quoi ? Et bien, d'abord, à essayer de comprendre ce qui s'est passé en Algérie. C'est une guerre civile, c'est très, très, très mystérieux. C'est pas un ennemi qui est à l'extérieur, qui est loin, qu'on peut reconnaître à son costume, à sa langue, et à ses intentions qui sont, souvent, il exprime de manière très claire. Une guerre civile, c'est quoi? C'est se battre contre ses frères, sa famille, sa mère, son père, contre sa religion, contre... Et là, j'ai senti que, mon potentiel scientifique, si je puis dire, mes connaissances scientifiques, pouvaient être utilisées dans la compréhension de ce qui arrivait là. Mais comment? Je ne savais pas. Donc je rejoins des groupes, on va dire, de réfusniques, de gens qui s'organisaient pour combattre ce qui se passait en Algérie. À la fois la dictature, qui a aussi sa religion, ses dogmes, ses paradigmes, très mystérieux. Hein. C'est une dictature, donc tout est secret. Mais en même temps, contre cette dictature qui est arrivée, l'islamisation, l'islamisme, le djihadisme, je me suis dit, je crois qu'avec mon côté scientifique, je peux peut-être expliquer certaines choses. Et j'ai écrit Le Serment des Barbares, mon premier roman. C'était l'explication que j'avais trouvée à cette époque, c'était que la violence est une magie. On est fondamentalement pacifique. Je veux dire, vous prenez un homme, vous le mettez sur une île déserte, il est pacifique naturellement.
Mais à un moment donné, surtout s'il est seul.
Parce qu'il est seul.
Oui.
Mais vous faites débarquer dans son île quelqu'un d'autre, commence la violence. Donc, voilà, les rapports entre les gens dégénèrent toujours parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, on ne regarde pas dans la même direction, on n'utilise pas les mêmes paradigmes et donc on se comprend pas. Et si on se comprend pas, on va se taper dessus.
Donc là, vous continuez aujourd'hui
La preuve, c'est que ce livre a été bien reçu, du moins en Algérie.
Oui.
Les gens se sont dit, il y a une explication. Alors la violence, d'où elle vient? Évidemment, elle vient de notre nature humaine. Nous sommes des prédateurs à la base. Mais nous sommes des citoyens engagés sur des programmes, des intérêts, les riches, les pauvres, les travailleurs, les chômeurs. On est forcément dans une situation de conflit permanent. Et puis après, cette explication s'est épuisée. Parce qu'à un moment donné, bon, on est dans la magie, mais comment sortir de la magie, hein? Alors, à un moment donné, on situe la violence non pas dans les relations immédiates, celles que nous pouvons avoir maintenant sur des intérêts, des objectifs, mais elle est historique. Elle vient peut-être, je ne sais pas, de Adam et Ève. Donc il faut remonter. La violence est un fleuve qui a une source quelque part. Donc on remonte l'histoire et peut-être on va trouver que ça vient du fait... Je parle de l'Algérie, hein. Peut-être de la colonisation. Voilà, la colonisation à un moment donné a détruit des structures sociales, économiques, intellectuelles. Les Algériens se sont trouvés perdus là-dedans. Et puis le colonisateur était là. Il faut faire avec. Donc des rapports conflictuels s'installent qui ont mené à la guerre d'indépendance. Et puis ensuite, après l'indépendance, la guerre pour le pouvoir. Aucune entité n'avait assez de légitimité au moment de l'indépendance pour prendre le pouvoir et l'exercer de manière consensuelle. Donc c'est les militaires... Ils avaient le pouvoir, donc ils ont pris ils se sont accaparés du pouvoir et ils ont géré le pays comme ils l'entendaient, comme ils continuent d'ailleurs à le faire. Donc on est appelé. Oui, mais je me sens encore appelé.
Et toujours sur cette question-là, sur la question de la violence entre les hommes ou sur cette question-là de la fin du monde? C'est la question en fait entre les deux dans votre.
Oui, quand on est dans le désarroi, quand on ne comprend pas, on imagine qu'on est à la fin des temps, quoi. Donc. Ça ne peut déboucher, si on n'arrive pas à comprendre et à trouver un traitement à la maladie, c'est la fin du monde. Voilà. Imaginez quelqu'un qui a le cancer, il apprend qu'il a le cancer, donc première information, Il essaie de se convaincre d'un tas de choses par rapport à cette maladie. Et s'il ne trouve pas de solution dans l'année, les deux années qui suivent, il est mort. À un moment donné, le cancer va métastaser, il n'est plus guérissable. On est, aujourd'hui, les sociétés humaines sont toutes dans cette situation. Le danger est partout, on arrive à le comprendre en partie. On voit bien que la fin du monde, ou la fin d'un monde, est au tournant. Et si on ne trouve pas de solution à temps, c'est suicidaire, quoi.
Dans votre roman, Boulogne sans salle, et d'ailleurs vous faites la différence entre la fin du monde et la fin d'un monde, c'est la fin de la planète qui est en jeu. Et même si c'est la fin du monde, qu'il y a ce compte à rebours, cette angoisse qui monte au fur et à mesure où il s'écoule, il y a tout de même une solution, puisque les appelés dialoguent avec une entité extraterrestre. Mm-hmm. Et la solution qui est apportée par cette entité, c'est de quitter cette Terre, c'est de leur offrir en quelque sorte une issue de secours.
Ouais. Alors, l'issue, la solution, on change avec le temps. Lorsque Abraham est venu, il y avait donc une situation. Il y avait un conflit, on va dire, religieux à cette époque-là. Le polythéisme s'épuisait, ne répondait plus aux questions que se posaient les humains. Arrive un appelé, Abraham. Il a proposé comme solution quoi ? Une terre, c'est la terre promise. Donc, si on arrive à trouver cette terre promise, tout est réglé, c'est le paradis. Moïse arrive, la question du territoire ne s'est pas posée à lui. Elle s'est posée en termes de, c'est pas le tout d'avoir une terre. Il faut avoir une loi pour vivre sur cette terre. C'était l'étape de la loi. Donc, on est passé d'un paradigme à l'autre, un tournant brutal qui a déstabilisé les sociétés à l'époque, d'où les guerres des empires et tout ça. Arrive Jésus. Oui, la terre, oui, la loi, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi une sorte, comment on va appeler ça, une empathie entre les hommes. L'homme est un animal. S'il voit un animal, même si c'est un animal comme lui, de la même espèce, il est sur ses gardes. Donc il faut aussi de l'empathie. Et ainsi de suite.
Et on en arrive à votre roman, parce que c'est aussi une forme de récit, de narrative, d'expliquer, d'offrir des nouvelles clés, puisque vous dites clairement que, en quelque sorte, les religions sont impuissantes face à ce qui est en train à l'avenir qui nous est annoncé.
Ouais, c'est ça. Toutes les religions passées ont servi un certain temps. Elles ont permis quand même de traverser des époques très dangereuses. Bon, mais là, elles sont arrivées en bout de course. Et alors moi, dans ce livre, je prétends qu'il y a encore une solution. C'est la science.
C'est pas de créer une autre religion. Vous êtes plutôt athée.
Oui. Donc complètement.
L'idée n'est pas de créer une religion, c'est justement de se tourner vers la science.
Donc j'ai observé évidemment tout ce que nous avons fait depuis 4000 ans. Donc les religions, elles nous ont permis de traverser des périodes plus ou moins encore que. Et puis le discours, l'offre religieuse s'est effondrée. Est arrivé. On est aujourd'hui dans l'offre politique. Voilà, c'est plus Dieu qui fournit les solutions, le territoire, la loi, la foi, l'empathie. C'est les hommes. Et ils offrent quoi ? C'est des programmes économiques, sociaux, etc. Le bonheur, la prospérité, la consommation. On voit bien que ça s'est effondré là. Ça n'a pas duré très longtemps. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Il n'y a rien. Il y a la science.
Et pourquoi pas l'art ?
Pourquoi pas ?
L'art. L'art, l'écriture, la littérature.
Mais l'art, c'est des mathématiques.
Ah bon ?
La musique, c'est des mathématiques. Mais l'art, c'est vraiment la plus belle partie de la science. Mais absolument. On ne va pas rentrer dans les allées mathématiques, mais. La musique aujourd'hui est entièrement écrite par les séries de Fourier, les trucs, des mathématiques d'une complexité extraordinaire. Oui, hein. L'art, bien sûr.
L'art, la science. La science aujourd'hui, elle apporte quoi ? Qu'est-ce qu'elle permet d'ouvrir comme imaginaire, comme perspective, selon vous, Boulogne sans salle ?
Eh bien, c'est d'abord une prise de conscience tout à fait évidente et élémentaire. La Terre est finie. C'est un espace fini. Il peut pas. Il arrive encore aujourd'hui à nourrir 8 milliards d'habitants. Quand on sera à 15, il va falloir qu'on s'entretue pour pouvoir en sauver quelques-uns.
Mais d'ailleurs, le personnage, il dit ça à un moment donné. Il dit si je pouvais, il réfléchit et il dit je tuerais une partie de la population pour pouvoir continuer à survivre.
Ben,
puis,
oui.
Il retrouve raison. Il se dit que ce n'est pas possible, que c'est
oui,
là.
À un moment donné, parce que au-dessus des hommes, des individus, il y a l'humanité. Alors, si on veut sauver l'humanité, il faut détruire un certain nombre d'humains, notamment les méchants, par exemple, ceux qui empêchent les autres de vivre. Et au cours de l'histoire, on a beaucoup réfléchi à la question. Par exemple, à un moment donné, on a pu penser de le malthusianisme, c'est que on n'a pas besoin des vieux. Il faut peut-être s'en débarrasser ou développer des politiques de dénatalisation. Voilà, c'est d'où l'invention le contrôle des naissances, etc., etc. Donc c'est une explication, c'est un moyen, mais il y en a beaucoup d'autres. La guerre a toujours, évidemment, la guerre a servi à régler des conflits. Mais elle a servi aussi à peut-être à éponger. À réduire la pression sociale, réduire, toujours dans l'esprit de Malthus, c'est réduire la population, parce que la Terre ne peut pas nous nourrir tous et nous protéger tous. Et comme elle est finie, il faut regarder où. Soit dans l'au-delà, en revenir encore aux religions, c'est...
Ça ne vous convainc pas, on voilà. A compris, ouais.
Il faut regarder l'espace, il lui est infini. Il nous offre cette chose extraordinaire qui est l'infini. Parce que nous sommes des êtres finis, vivant dans des espaces finis, même étriqués et de plus en plus pauvres. Et quand on lave le ciel, et quand on observe ce à quoi les savants, les astrophysiciens, les mathématiciens aujourd'hui observent dans l'univers, on dit, mais c'est fantastique, il faut y aller. Et rapidement. Voilà. Et donc, il faut accélérer les recherches et je parle, par exemple, évidemment, de cet extraterrestre. On ne sait pas, d'ailleurs, si c'est un extraterrestre. Qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être l'univers qui nous parle. Il n'y a pas de raison de penser que l'univers n'est pas vivant. On a toujours imaginé des forces représentées par des vieux monsieur, barbus, trucs, ou des rois. Non, mais ça peut être l'univers. L'univers est peut-être le Dieu suprême. Et on découvre l'infini. Voilà. Depuis Einstein, donc il y a un peu moins d'un siècle, on est sorti du fini pour entrer dans l'infini. Donc il faut libérer nos cerveaux pour entrer là-dedans. Donc il faut faire des mathématiques, de la science pour ouvrir son cerveau à cela. Quoi.
Est-ce que votre personnage principal, Paolo, il est armé face à cette vision, à cette situation vertigineuse dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire cette idée de cette vision, de ce message qui lui tombe dessus, combiné à cette fin du monde, ça lui fait se poser justement aussi des questions éthiques, philosophiques presque. Il va devoir agir, faire des choix.
Ben c'est tout le problème précisément. C'est tout le problème qui s'est tout éternellement posé à l'homme. Et il faut choisir les élus. La manne ne peut pas nourrir tout le monde. Donc il faut à un moment donné choisir qui peut ou qui doit profiter de la manne. C'est pas évident. Donc c'est une question qu'on se pose à chaque instant et à laquelle il faut répondre à chaque instant. Ça ne peut pas attendre. On ne sait pas, peut-être que moi, en sortant d'ici, je vais faire un tomber dans l'escalier, me casser le... Bon. Donc, j'ai peut-être devant moi seulement 5 minutes à vivre. Et donc, je dois, dans ces 5 minutes, régler toutes les questions qui peuvent se poser en ce moment-là. Quelle direction je vais prendre ? Est-ce que je vais prendre l'ascenseur pour éviter de glisser dans les escaliers ? Ou est-ce que je vais plutôt aller par les escaliers pour éviter d'être enfermé dans l'ascenseur et mourir de frayeur ? C'est des choix sans arrêt. Alors, faire des choix lointains, c'est facile. Moi aussi, je devais choisir entre les Chinois qui doivent vivre et qui doivent mourir, c'est facile. Pile ou face, je vais dire, allez, on va sauver toutes les femmes et les enfants, et les hommes, on n'en a pas besoin. C'est facile. Mais plus on se rapproche de mon... ce qui fait mon ego, ma personne, et ça devient difficile. Est-ce que je saurais choisir entre... Moi, j'ai deux filles, est-ce que je saurais choisir entre l'une et l'autre ? Est-ce que... Voilà. Plus on se rapproche de son propre territoire, plus c'est difficile. Et plus c'est loin, plus c'est facile.
En France, au banc d'essai de la Courneuve, M. Maroselli, ministre de l'Air, est venu voir tourner le premier moteur à réaction français. Conçu dès 1939, le turbo-réacteur Rateau fonctionne à 7500 tours minute. Et son compresseur spécial lui assure un gain de rendement de 20%. Pendant l'occupation, il a échappé aux recherches allemandes. Mieux, on y a travaillé. Et avec lui, la France, à son tour, prend le départ de la grande course de vitesse. Progrès.
Boualem Sansal, on vient d'entendre une archive de 1947 des actualités françaises à propos de cet essai d'un nouveau turboréacteur.
Et vous avez vous-même écrit des livres sur les turboréacteurs dans la première partie de la carrière que vous avez abordée tout à l'heure, puisque vous avez cette formation, une première vie de scientifique en quelque sorte avant, et vous en avez commencé à l'aborder, de tomber dans la littérature, d'abord parce que... c'était plus, comment dire, acceptable d'être scientifique, c'était plus facile d'avoir ces notions de, voilà, 1 plus 1 égale 2 pour commencer votre...
C'est tout bête, l'explication est toute bête, c'est qu'à l'indépendance, le gouvernement algérien, donc il a choisi sa voie, donc l'islam, etc., enfin, en tant que pays musulman, arabe musulman, donc la politique était... Et première décision, c'est d'interdire l'enseignement de la philosophie. En islam, la philosophie était mal vue. Donc, il y a le Coran et rien d'autre. La philosophie, c'est interpeller Dieu, c'est interpeller la vie, c'est interpeller l'humanité et la faire douter. Donc, c'est de la même manière, l'anthropologie, la sociologie, tout ça, c'était des matières pas... En fait, carrément interdite. Le discours à l'époque, c'était aller faire des sciences. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé étudiant à l'école polytechnique. Et puis j'ai trouvé quand même que la science, en fait, c'est une totalité. Elle regroupe... on retrouve la tautologie... La philosophie, l'anthropologie, la sociologie, on la retrouve dans les mathématiques. C'est la théorie des ensembles. La sociologie, quoi, c'est l'étude des catégories sociales, on va dire, pour faire simple. Dans les mathématiques, on a la théorie des ensembles. Donc on peut considérer les humains comme étant des ensembles qui peuvent se marier, qui peuvent divorcer. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes formules, les mêmes équations de la théorie des ensembles dans la sociologie. Dans l'anthropologie, c'est la culture. Mais là aussi, il y a des hiérarchies dans les vérités scientifiques. L'économie, c'est pareil.
Et pourtant, ça ne permet pas de tout...
Les chemins les plus courts pour une solution, c'est de l'économie. Économie de temps, économie d'argent, économie de ceci. Donc finalement, le savoir est un... Mais il a plusieurs facettes. Donc on peut le regarder du côté du philosophe, anthropologue, sociologue, etc. On peut le regarder du côté simplement en tant qu'organisme vivant, par exemple en tant que journaliste. On regarde une réalité mouvante et on essaie de comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Comme on peut le regarder avec la facette scientifique, où là c'est les ensembles, voilà, des trucs.
Et donc qu'est-ce qui fait, Boualem Sansal, que dans les années 90, vous souhaitez regarder ce monde avec un autre œil, celui de l'écrivain, de passer par la littérature, justement, de rentrer peut-être plus dans l'intimité aussi des gens qui vous entourent?
Eh bien, c'était... Parce que quand la guerre civile a démarré en Algérie, donc chacun, donc j'utilise les moyens qui sont les miens pour essayer de comprendre la réalité. Donc, en tant que scientifique et en tant que parce que j'ai fait aussi des études d'économie
ouais.
Donc ça expliquait en partie un certain nombre de choses, mais pas tout. Et j'étais vraiment très très désorienté, tout à fait en manque de moyens. Et là, je rejoins un groupe d'amis qui s'étaient constitués comme ça en think tank. Il y avait des écrivains, des journalistes, des spécialistes des droits de l'homme, et ils essayaient de comprendre qu'est-ce qui se passe en Algérie, et en tant qu'intellectuel, journaliste, écrivain, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire face. D'un côté, on a les militaires, qui tire sans sommation, et de l'autre côté, on a des islamistes qui égorgent sans sommation. Entre les deux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, ils ont fait appel à moi en tant que scientifique et économiste. Je suis venu avec mes petites explications. L'économie crée des inégalités entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont des revenus et ceux qui n'ont pas de revenus, etc. Donc, ça pouvait expliquer un certain nombre de choses. C'est que si vous n'avez pas de travail, alors que vous avez beaucoup de besoins en tant que jeune, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous allez à la mosquée, puis vous êtes peut-être tenté par la délinquance et par une révolution totale islamique.
Donc, ce qui vous guide, c'est de proposer un nouveau récit, d'autres voies, en fait.
Voilà. Et donc, avec
la littérature.
Voilà. Et donc, avec ce groupe-là, je me suis dit, je crois qu'avec les moyens qui sont les miens, je ne peux pas tout expliquer, tout comprendre. Donc, je me suis emparé de leurs réflexions et j'ai trouvé beaucoup de choses. Là. Mais au début, c'était confus dans ma tête. Hein. C'est petit à petit, commencer à y réfléchir, à beaucoup lire. Et puis, à un moment donné, en me mettant à écrire, et les choses ont commencé à se clarifier. D'où j'étais parti sur l'idée qu'il faut travailler sur la violence dans la société. Voilà. Elle peut être petite, faible, grande, elle peut avoir des dimensions colossales, des objectifs extraordinaires et des objectifs tout à fait mesquins. Et la violence, c'était un créneau vraiment très important. Je me suis beaucoup investi là-dedans. La violence économique, la violence religieuse, la violence de quartier, la délinquance, enfin bref, c'est tout ça, les mettre en parallèle, en dialogue et...
Et est-ce qu'à travers la littérature, Boualem Sansal, vous avez eu l'impression d'être plus audible dans l'explication que vous vouliez fournir à cette violence ?
Alors oui, en partie, mais
plus utile même, je dirais,
oui,
qu'audible.
Mais je crois peut-être que j'ai raté mon coup parce que je suis plutôt clivant et conflictuel.
Ah bon ?
Ben oui, moi je me suis adressé à moi en tant que scientifique. Je veux dire que je suis dans la rationalité. Je ne mets pas d'affect dans la réflexion. 1 plus 1 égale 2, je n'ai pas à pleurer ou à rire de cette équation. Mais j'avais en face quoi ? Des jeunes qui étaient dans le djihadisme, donc qui sont dans la vérité absolue, que Dieu leur commande de tuer tout le monde. Donc quand moi je viens et leur dis « la religion est violente », évidemment ils me sautent à la gorge. Donc j'ai été très vite, je me suis retrouvé dans cette situation de clivage. J'ai clivé la société algérienne avec mes premiers livres. Et donc du coup, j'étais, on va dire, considéré comme le traître, l'apostat, etc.
Vous avez été censuré, en Algérie.
C'était dangereux. Et pour le pouvoir. Et pour les gens qui se sentaient, les islamistes, on va dire, etc.
Qui se sentaient attaqués.
Ils se sentaient attaqués, alors que moi je leur disais, je ne vous attaque pas.
Et pour une autre partie,
la religion est par définition violente. De quelle façon ? Eh bien parce que Dieu ne s'adresse aux appelés. Alors et les autres ? Ceux qui ne sont pas appelés, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc déjà par définition, par exemple, l'islam s'adresse aux musulmans. Ok, et les autres ? Les chrétiens, les juifs, les trucs, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait d'eux ?
Et pour une autre partie des Algériens, vous avez aussi été soutenu. Vous êtes ici un écrivain que l'on suit, que l'on lit. Là, de ce point de vue-là, vous faites entendre une voix qui est quand même entendue.
Oui, ben, disons que ça commence. J'ai beaucoup ramé parce qu'il a fallu aussi que je me rende compte que savoir et comprendre et tout, c'est pas suffisant. Il faut de la pédagogie aussi.
Voilà.
On s'adresse aux gens. Le canal, c'est le langage, c'est le livre, c'est la discussion. Et donc, nécessairement, il faut de la science pédagogique, que je n'avais pas. Moi, j'enseignais ex cathedra. Moi, dans mes salles, quand j'étais prof à l'université, je suis au tableau, moi seul, parle. Les autres, ils sont là à écouter, à prendre des notes. Que ce soit bon ou pas bon, faux ou vrai, ils doivent avaler cela. Parce que c'est sur ça qu'on va les interroger dans les examens. Bon. Mais là, non, je m'adresse à des gens qui sont libres. Ils peuvent croire à ce que je dis, comme ils peuvent le refuser, comme ils peuvent m'attaquer, et contre-attaquer, et contre-argumenter. Donc, mais ça, moi, j'ai jamais su le faire. Je n'ai jamais parlé qu'à des étudiants. Donc, il a fallu que j'apprenne à parler non seulement à des adultes, qui est très compliqué, mais en tant que groupes sociaux. Parce qu'ils ne sont pas liés seulement par leurs propres croyances, mais ils font partie d'un système. d'une profession, d'une... voilà, il a fallu que j'apprenne tout cela. Ben, je pense avoir fait quelques progrès, mais j'en suis encore loin.
Donc progrès en écriture, parce que ça c'est aussi c'est une certaine manière d'écrire, oui. De choisir par exemple la fiction, à certains moments, voilà. D'autres fois de laisser.
Voilà, exactement. Oui.
Vous travaillez votre style en fait.
Ben, ça dépend du sujet, J'ai privilégié quelquefois la pure fiction, mais très peu. Vous regarderez dans mes livres, il y a vraiment plutôt très peu de fiction. Je parle de faits réels. Que j'y situe dans un ensemble, dans un système, et j'analyse ça en tant que tel. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que peut-être qu'à un moment donné, on se dit, qui faut-il convaincre ? Est-ce que ça vaut le coup de sortir dans la rue, parler aux gens ? Ben, les pauvres, ils sont aussi démunis que, voilà, ils vous écoutent. Ils peuvent se passer outre, hein. Bon, ouais. Ils vont hausser les épaules et passer, comme ils peuvent vous écouter, et ensuite. Après, je me suis dit, non, peut-être qu'il faut parler aux prescripteurs, c'est-à-dire les intellectuels, les journalistes et les politiques. Donc du coup, c'est un autre style. Donc j'ai écrit des essais, et même dans la fiction, comme Vivre, je mets aussi
Oui, mais des démarches. J'allais vous demander à qui vous vous adressez avec ce récit d'anticipation, ce récit de science-fiction aussi. Je sais que vous dites que ce n'est pas une dystopie.
C'est pas une dystopie.
À qui vous voulez vous adresser avec ce récit-là, ce roman-là ?
Eh bien, d'abord, aux intellectuels, les gens qui ressemblent à Paolo, à Samuel, à Jason, et puis. Parce que si vous arrivez à convaincre ces gens, ça va très vite, après. Regardez par exemple la question de l'islamisme qui est évidemment l'Algérie est passée par là, on l'a découvert tardivement et malheureusement pour nous très tardivement que c'était un danger puisque c'est une violence exercée contre ceux qui ne sont pas croyants. Et alors essayer de convaincre les gens dans la rue, moi je sais pas le faire, je suis pas un imam, je suis pas un prédicateur, j'ai pas ces instruments là. Et donc, je me suis dit, mais qui convaincre du danger de la chose ? Et bien, d'abord, c'est ceux qui gouvernent.
Et donc, ça passe, par exemple, aussi par ce roman. Voilà. Ce roman qui s'appelle, je le rappelle, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, Boalem Sansal, Vivre, sous-titré Le Comte à rebours. Il est disponible aux éditions Gallimard.
Pour finir, Boalem Sansal, nous avons choisi deux chansons, l'une sur la littérature, l'autre sur les mathématiques. Laquelle des deux souhaitez-vous écouter ? Une chanson sur la littérature ou une chanson sur les mathématiques ?
Il faut faire les deux.
Alors on va choisir nous-mêmes, alors, c'est ça ?
Oui, il faut faire les deux. Mais personne n'échappe au choix.
Choisissez maintenant, vous êtes obligé, on n'a plus le temps.
Vous avez lu le livre, donc c'est à vous ensuite de choisir.
Nicolas.
Quel aspect ? Vous allez privilégier l'aspect science-fiction ? Ou l'aspect religieux ? Ou l'aspect sociologique ?
La littérature, alors. C'est parti, la littérature. David Bowie, donc, pour terminer cette émission, Boalem Sansal 1984. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture, émission préparée par Aïssa Twendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. Louise André est à la réalisation ce midi et à la prise de son, c'est Sébastien Royer. À demain, Géraldine. Merci.
À demain, Nicolas.